Livre 6. Aspects variés d'Ursus. Chapitre 1. Ce que dit le misanthrope. Après qu'Ursus eut vu Gwynplaine s'enfoncer sous la porte de la geôle de Southwark, il demeura hagard dans le recoin où il s'était mis en observation. Il eut longtemps dans l'oreille ce grincement de serrures et de verrous qui semble le hurlement de joie de la prison dévorant un misérable. Il attendit. Quoi ? Il épia. Quoi ? Ces inexorables portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas tout de suite. Elles sont ankylosées par leur stagnation dans les ténèbres et elles ont les mouvements difficiles. Surtout lorsqu'il s'agit de délivrer. Entrer, soit. Sortir, c'est différent. Ursus le savait. Mais attendre est une chose qu'on n'est pas libre de cesser à volonté. On attend malgré soi. Les actions que nous faisons dégageant une force acquise qui persiste même lorsqu'il n'y a plus d'objet, qui nous possède et nous tient, et qui nous oblige pendant quelque temps à continuer ce qui désormais est sans but. Le guet inutile, posture inepte que nous avons tous eue dans l'occasion, perte de temps que fait machinalement tout homme attentif à une chose disparue. Personne n'échappe à ces fixités-là. On s'obstine avec une sorte d'acharnement distrait. On ne sait pourquoi l'on reste à cet endroit où l'on est, mais on y reste. Ce qu'on a commencé activement, on le continue passivement. Ténacité épuisante, d'où l'on sort accablé. Ursus, différent des autres hommes, fut pourtant, comme le premier venu, cloué sur place par cette rêverie mêlée de surveillance où nous plonge un événement qui peut tout sur nous et sur lequel nous ne pouvons rien. Il considérait tour à tour les deux murailles noires, tantôt la basse, tantôt la haute, tantôt la porte où il y avait une échelle de potence, tantôt la porte où il y avait une tête de mort. Il était comme pris dans cet étau composé d'une prison et d'un cimetière. Cette rue évitée et impopulaire avait si peu de passants qu'on ne remarquait point Ursus. Enfin, il sortit de l'encoignure quelconque qu'il abritait, espèce de guérite de hasard où il était en vedette, et il s'en alla à pas lents. Le jour baissait, tant sa faction avait été longue. De temps en temps, il tournait le cou et regardait l'affreux guichet bas où était entré Gwynplaine. Il avait l'œil vitreux et stupide. Il arriva au bout de la ruelle, prit une autre rue, puis une autre, retrouvant vaguement l'itinéraire par où il avait passé quelques heures auparavant. Par intervalles, il se retournait, comme s'il pouvait encore voir la porte de la prison, quoiqu'il ne fût plus dans la rue où était la geôle. Peu à peu, il se rapprochait du Tarinzofield. Les lanes qui avoisinaient le champ de foire étaient des sentiers déserts entre des clôtures de jardins. Il marchait, courbé, le long des haies et des fossés. Tout à coup, il fit halte et se redressa, et il cria « Tant mieux !» En même temps, il se donna deux coups de poing sur la tête, puis deux coups de poing sur les cuisses, ce qui indique l'homme qui juge les choses comme il faut les juger. Et il se mit à grommeler entre cuir et chair, par moments avec des éclats de voix. « C'est bien fait !» Ah, le gueux, le brigand, le chenapan, vaurien, séditieux. Ce sont ses propos sur le gouvernement qui l'ont mené là. C'est un rebelle. J'avais chez moi un rebelle. J'en suis délivré. J'ai de la chance. Il nous compromettait. Fourré au bagne, ah, tant mieux. Excellence des lois. Ah, l'ingrat, moi qui l'avais élevé. Donnez-vous donc de la peine. Quel besoin avait-il de parler et de raisonner? Il s'est mêlé des questions d'État. Je vous demande un peu. En maniant des sous, il a déblatéré sur l'impôt, sur les pauvres, sur le peuple, sur ceux qui ne le regardaient pas. Il s'est permis des réflexions sur les pence. Il a commenté méchamment et malicieusement le cuivre de la monnaie du royaume. Il a insulté les lières de sa majesté. Un farthing, c'est la même chose que la reine. L'effigie sacrée, morbleu, l'effigie sacrée. A-t-on une reine, oui ou non? Respect à son vert de gris. Tout se tient dans le gouvernement. Il faut connaître cela. J'ai vécu, moi. Je sais les choses. On me dira, mais vous renoncez donc à la politique? La politique, mes amis, je m'en soucie autant que du poil bourru d'un âne. J'ai reçu un jour un coup de canne d'un baronnet. Je me suis dit, ça suffit. Je comprends la politique. Le peuple n'a qu'un liard, il le donne. La reine le prend. Le peuple remercie. Rien de plus simple. Le reste regarde les lords. Leur seigneurie, les lords spirituels et temporels. Gwynplaine est souclé. Il est aux galères. C'est juste. C'est équitable. Excellent. Mérité. Et légitime. C'est sa faute. Bavardé, défendu. Es-tu un lord imbécile? Loi Puntec l'a saisi. Le justicier Quorum l'a emmené, le shérif le tient. Il doit être en ce moment-ci épluché par quelques sergents de la coiffe. Comme ça vous plume les crimes, ces habiles gens-là. Coffrez, mon drôle. Tant pis pour lui, tant mieux pour moi. Je suis, ma foi, bien content. J'avoue ingénument que j'ai de la chance. Quelle extravagance j'avais faite de ramasser ce petit et cette petite. Nous étions si tranquilles auparavant, Homo et moi. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans ma baraque, ces gredins-là? Les ai-je assez couvés quand ils étaient mioches? Les ai-je assez traînés avec ma bricole? Joli sauvetage. Lui, sinistrement laid, elle borgne des deux yeux. Privez-vous donc de tout. Ai-je assez tété pour eux les mamelles de la farine? Ça grandit, ça fait l'amour. Des flirtations d'infirmes, c'est là que nous en étions. Le crapaud et la taupe, idylle. J'avais ça dans mon intimité. Tout cela devait finir par la justice. Le crapaud a parlé politique, c'est bon, m'en voilà délivré. Quand Loi Puntec est venue, j'ai d'abord été bête. On doute toujours du bonheur. J'ai cru que je ne voyais pas ce que je voyais, que c'était impossible, que c'était un cauchemar, que c'était une farce que me faisait le rêve. Mais non, il n'y a rien de plus réel. C'est plastique. Gwynplaine est bellement en prison. C'est un coup de la Providence. Merci, bonne madame. C'est ce monstre qui, avec le tapage qu'il faisait, a attiré l'attention sur mon établissement et a dénoncé mon pauvre loup. Parti, le Gwynplaine. Et me voilà débarrassé des deux. D'un caillou, deux bosses. Cardéa en mourra. Quand elle ne verra plus Gwynplaine, elle le voit, l'idiote. Elle n'aura plus de raison d'être. Elle se dira, qu'est-ce que je fais en ce monde? Et elle partira, elle aussi. Bon voyage. Au diable, tous les deux. Je les ai toujours détestés, ces êtres. Crève, Déa. Ah, que je suis content. Chapitre 2. Ce qu'il fait. Il rejoignit Lynn Tedcaster. 6h30 sonnait, la demi passait 6, comme disent les Anglais. C'était un peu avant le crépuscule. Maître Nicless était sur le pas de sa porte. Sa face consternée n'avait point réussi depuis le matin à se détendre, et l'effarement y était resté figé. Du plus loin qu'il aperçut Ursus, « Eh bien » cria-t-il. « Eh bien quoi ?»« Gwynplaine, va-t-il revenir ? Il serait grand temps. Le public ne tardera pas à arriver. Aurons-nous ce soir la représentation de l'homme qui rit ?»« L'homme qui rit, c'est moi, » dit Ursus. Et il regarda le tavernier avec un ricanement éclatant. Puis il monta droit au premier, ouvrit la fenêtre voisine de l'enseigne de Lynn, se pencha, allongea le poing, fit une pesée sur l'écriteau de Gwynplaine, l'homme qui rit, et sur le panneau affiche de chaos vaincu, décloua l'un, arracha l'autre, mit ses deux planches sous son bras et redescendit. Maître Nicless le suivait des yeux. « Pourquoi décrochez-vous ça ?» Ursus partit d'un second éclat de rire. « Pourquoi riez-vous ? » reprit l'hôtelier. « Je rentre dans la vue privée !» Maître Nicless comprit et donna ordre à son lieutenant, le boy Govicom, d'annoncer à quiconque se présenterait qu'il n'y aurait pas de représentation le soir. Il ôta de la porte la futaille niche où se faisait la recette et la rencogna dans un angle de la salle basse. Un moment après, Ursus montait dans la green box. Il posa dans un coin les deux écriteaux et pénétra dans ce qu'il appelait le pavillon des femmes. Dea dormait. Elle était sur son lit, tout habillée, et son corps de jupe défait, comme dans les siestes. Près d'elle, Vinos et Phoebe, assises, l'une sur un escabeau, l'autre à terre, songeaient. Malgré leur avancée, elles n'avaient point revêtu leur tricot de déesse, signe de profond découragement. Elles étaient restées empaquetées dans leurs guimpes de bure et dans leurs robes de grosse toile. Ursus considéra Dea. « Elle s'essaie à un plus long sommeil, » murmura-t-il. Il apostropha Phoebe et Vinos. « Vous savez, vous autres, c'est fini la musique. Vous pouvez mettre vos trompettes dans votre tiroir. Vous avez bien fait de ne pas vous harnacher en déité. Vous êtes bien laides comme ceci, mais vous avez bien fait. Gardez vos cotillons de torchon. Pas de représentation ce soir. Ni demain. Ni après-demain, ni après-après-demain. Plus de Gwynplaine. Pas plus de Gwynplaine que sur ma patte. » Et il se remit à regarder Dea. Quel coup ça va lui donner! Ce sera comme une chandelle qu'on souffle. Il enfla ses joues. Plus rien. Il eut un petit rire sec. Gwynplaine de moins, c'est tout de moins. Ce sera comme si je perdais Homo. Ce sera pire. Elle sera plus seule qu'une autre. Les aveugles, ça patauge dans plus de tristesse que nous. Il alla à la lucarne du fond. Comme les jours rallongent, on y voit encore à 7 heures. Pourtant, allumons le suif. Il battit le briquet et alluma la lanterne du plafond de la green box. Il se pencha sur Dea. « Elle va s'enrhumer. Les femmes, vous lui avez trop délacé son capingo. Il y a le proverbe français, « On est en avril, n'ôte pas un fil. » Il vit briller à terre une épingle, la ramassa et la piqua sur sa manche. Puis il arpenta la green box en gesticulant. « Je suis en pleine possession de mes facultés. Je suis lucide, archi-lucide. » Je trouve cet événement très correct, et j'approuve ce qui se passe. Quand elle va se réveiller, je lui dirai tout net l'incident. La catastrophe ne se fera pas attendre. Plus de Gwynplaine, bonsoir Dea. Comme tout ça est bien arrangé. Gwynplaine dans la prison, Dea au cimetière. Ils vont se faire vis-à-vis. Danse macabre. Deux destinées qui rentrent dans la coulisse. Serrons les costumes, bouclons la valise. Valise, lisez cercueil. C'était manqué, ces deux créatures-là. Dea sans yeux, Gwynplaine sans visage. Là-haut, le bon Dieu rendra la clarté à Dea et la beauté à Gwynplaine. La mort est une mise en ordre. Tout est bien. Phoebe, Vinos, accrochez vos tambourins aux clous. Vos talents pour le vacarme vont se rouiller, mes belles. On ne jouera plus. On ne trompettera plus. Chaos vaincu est vaincu. L'homme qui rit est flambé. Taratantara est mort. Cette Dea dort toujours. Elle fait aussi bien. À sa place, je ne me réveillerai pas. Bah, elle sera vite endormie. C'est tout de suite mort, une mauviette comme ça. Voilà ce que c'est que de s'occuper de politique. Quelle leçon! Et comme les gouvernements ont raison. Gwynplaine au shérif, Dea au fossoyeur. C'est parallèle. symétrie instructive. J'espère bien que le tavernier a barricadé la porte. Nous allons mourir ce soir entre nous, en famille. Pas moi, ni Homo, mais Déa. Moi, je continuerai de faire rouler le berlingot. J'appartiens aux méandres de la vie vagabonde. Je congédierai les deux filles. Je n'en garderai pas même une. J'ai de la tendance à être un vieux débauché. Une servante chez un libertin, c'est du pain sur la planche. Je ne veux pas de tentation. Ce n'est plus de mon âge. Turpe senilis armor. Je poursuivrai ma route tout seul avec Homo. Ah, c'est Homo qui va être étonné. Oui, Gwynplaine ? Oui, Déa ? Mon vieux camarade, nous revoilà ensemble. Par la peste, je suis ravie. Ça m'encombrait, leur bucolique. Ah, ce garnement Gwynplaine qui ne revient même pas, il nous plante là. C'est bon. Maintenant, c'est le tour de Déa. Ce ne sera pas long. J'aime les choses finies. Je ne donnerai pas une chiquenaude sur le bout du nez du diable pour l'empêcher de crever. Crève, entends-tu ? Ah, elle se réveille. Déa ouvrit les paupières, car beaucoup d'aveugles ferment les yeux pour dormir. Son doux visage ignorant avait tout son rayonnement. « Elle sourit, » murmura Ursus. « Et moi, je ris. Ça va bien. » Déa appela. « Phoebe, Vinos, il doit être l'heure de la représentation. Je crois avoir dormi longtemps. Venez m'habiller. » Ni Phoebe ni Vinos ne bougèrent. Cependant, cet ineffable regard d'aveugle qu'avait Déa venait de rencontrer la prunelle d'Ursus. Il tressaillit. « Eh bien » cria-t-il. « Qu'est-ce que vous faites donc ? Vinos, Phoebe, vous n'entendez pas votre maîtresse ? Est-ce que vous êtes sourde ? Vite, la représentation va commencer !» Les deux femmes regardèrent Ursus stupéfaite. Ursus vociféra. « Vous ne voyez pas le public qui entre ? Phoebe, habille Déa, Vinos, tambourine !» Obéissance, c'était Phoebe. Passive, c'était Vinos. À elles deux, elles personnifiaient la soumission. Leur maître, Ursus, avait toujours été pour elles une énigme. N'être jamais compris est une raison pour être toujours obéi. Elles pensèrent simplement qu'il devenait fou et exécutèrent l'ordre. Phoebe décrocha le costume et Vinos le tambour. Phoebe commença à habiller Déa. Ursus baissa la portière du gynécée et de derrière le rideau continua. « Regarde donc, Gwynplaine, la cour est déjà plus qu'à moitié remplie de multitudes. On se bouscule dans les vomitoires. Quelle foule ! Que dis-tu de Phoebe et de Vinos qui n'avaient pas l'air de s'en apercevoir ? Que ces femmes bréennes sont stupides ! Qu'on est bête en Égypte ! Ne soulève pas la portière. Sois pudique, Déa s'habille. » Il fit une pause. Et tout à coup, on entendit cette exclamation. « Que Déa est belle !» C'était la voix de Gwynplaine. Phoebe et Vinos eurent une secousse et se retournèrent. C'était la voix de Gwynplaine, mais dans la bouche d'Ursus. Ursus, d'un signe par l'entrebâillement de la portière, leur fit défense de s'étonner. Il reprit avec la voix de Gwynplaine. « Ange !» Puis il répliqua avec la voix d'Ursus. « Déa, un ange ? Tu es fou, Gwynplaine ! Il n'y a de mammifère volant que la chauve-souris. » Et il ajouta. « Tiens, Gwynplaine, va détacher Homo, ce sera plus raisonnable. » Et il descendit l'escalier d'arrière de la Gwynbox, très vite, à la façon leste de Gwynplaine. Tapage imitatif que Déa put entendre. Il avisa dans la cour le boy que toute cette aventure faisait oisif et curieux. « Tentez demain, » lui dit-il tout bas, et il lui vida dedans une poignée de sous. Covicom fut attendri de cette munificence. Ursus lui chuchota à l'oreille. « Boy, installe-toi dans la cour. Saute, danse, cogne, gueule, braille, siffle, roucoule, hennie, applaudis, trépigne, éclate de rire, casse quelque chose. » Maître Nicless, humilié et dépité de voir les gens venus pour l'homme qui rit rebrousser chemin et reflouer vers les autres baraques du champ de foire, avait fermé la porte de l'inn. Il avait même renoncé à donner à boire ce soir-là, afin d'éviter l'ennui des questions. Et, dans le désœuvrement de la représentation manquée, chandelle au poing, il regardait dans la cour du haut du balcon. Ursus, avec la précaution de mettre sa voix entre parenthèses dans les paumes de ses deux mains ajustées à sa bouche, lui cria « Gentleman, faites comme votre boy, glapissez, jappez, hurlez !» Il remonta dans la green box et dit au loup « Parle le plus que tu pourras !» Et, haussant la voix, « Il y a trop de foule, je crois que nous allons avoir une représentation chaotée !» Cependant, Vinos tapait du tambour. Ursus poursuivit. « Déa est habillée, on va pouvoir commencer. Je regrette qu'on ait laissé entrer tant de public. Comme ils sont tassés! Mais vois donc, Gwynplaine, y en a-t-il de la tourbe effrénée? Je gage que nous ferons notre plus grosse recette aujourd'hui. Allons, drôlesse, toutes deux à la musique. Arrive ici, Phoebe, saisis ton clairon. » « Bon, Vinos, rosse ton tambour, fourlancle-lui une raclée. Phoebe, prends une pose de renommée. Mesdemoiselles, je ne vous trouve pas assez nue comme cela. Ôtez-moi ces jaquettes, remplacez la toile par la gaze. Le public aime les formes de la femme. Laissons tonner les moralistes. Un peu d'indécence, morbleu, soyons voluptueuses. Et ruez-vous dans les mélodies éperdues. » Ronfler, corner, crépiter, fanfarer, tambouriner. Que de monde, mon pauvre Gwynplaine! Il s'interrompit. Gwynplaine, aide-moi, baissons le panneau. Cependant, il déploya son mouchoir. Mais d'abord, laisse-moi mugir dans mon haillon. Et il se moucha énergiquement, ce que doit toujours faire un angastrimite. Son mouchoir remis dans sa poche, il retira les clavettes du jeu de poulie qui fit son grincement ordinaire. Le panneau s'abaissa. « Gwynplaine, il est inutile d'écarter la triveline. Gardons le rideau jusqu'à ce que la représentation commence. Nous ne serions pas chez nous. Vous, venez sur l'avant-scène toutes deux. Musique, mesdemoiselles. Poum, poum, poum. La chambre est bien composée. C'est la lie du peuple. Que de « Populace, mon Dieu !» Les deux brehaignes, abrutis d'obéissance, s'installèrent avec leurs instruments à leur place habituelle aux deux angles du panneau abaissé. Alors, Ursus devint extraordinaire. Ce ne fut plus un homme, ce fut une foule. Force de faire la plénitude avec le vide, il appela à son secours une ventriloquie prodigieuse. Tout l'orchestre de voix humaines et bestiales qu'il avait en lui entra en branle à la fois. Il se fit légion. Quelqu'un qui eût fermé les yeux eût cru être dans une place publique un jour de fête ou un jour d'émeute. Le tourbillon de bégaiements et de clameurs qui sortait d'Ursus chantait, clabaudait, causait, toussait, crachait, éternuait, prenait du tabac, dialoguait, faisait les demandes et les réponses, tout cela à la fois. Les syllabes ébauchées rentraient les unes dans les autres. Dans cette cour où il n'y avait rien, on entendait des hommes, des femmes, des enfants. C'était la confusion claire du brouhaha. À travers ce fracas, serpentaient, comme dans une fumée, des cacophonies étranges, des gloussements d'oiseaux, des jurements de chats, des vagissements d'enfants qui têtent. On distinguait l'enrouement des ivrognes, le mécontentement des dogues sous les pieds des gens bougonnés. Les voix venaient de loin et de près, d'en haut et d'en bas, du premier plan et du dernier. L'ensemble était une rumeur, le détail était un cri. Ursus cognait du poing, frappait du pied, jetait sa voix tout au fond de la cour, puis la faisait venir de dessous terre. C'était orageux et familier. Il passait du tumulte au bruit, du bruit au tumulte, du tumulte à l'ouragan. Il était lui et tous, soliloque et polyglotte. De même qu'il y a le trompe-l'œil, il y a le trompe-l'oreille. Ce que Protée faisait pour le regard, Ursus le faisait pour l'ouïe. Rien de merveilleux comme ce fac-similé de la multitude. De temps en temps, il écartait la portière du gynécée et regardait Déa. Déa écoutait. De son côté, dans la cour, le boy faisait rage. Vinos et Phoebus s'essoufflaient consciencieusement dans les trompettes et se démenaient sur les tambourins. Maître Nicless, spectateur unique, se donnait comme elle l'explication tranquille qu'Ursus était fou. Ce qui, du reste, n'était qu'un détail grisâtre ajouté à sa mélancolie. Le brave hôtelier grommelait. Quel désordre! Il était sérieux comme quelqu'un qui se souvient qu'il y a des lois. Govicom, ravi d'être utile à du désordre, se démenait presque autant qu'Ursus. Cela l'amusait. De plus, il gagnait ses sous. Homo était pensif. À son vacarme, Ursus mêlait des paroles. « C'est comme à l'ordinaire, Gwynplaine. Il y a de la cabale. Nos concurrents sapent nos succès. La huée, assaisonnement du triomphe. Et puis les gens sont trop nombreux, ils sont mal à leur aise. L'angle d'écoute du voisin ne dispose pas à la bienveillance. Pourvu qu'il ne casse pas les banquettes. Nous allons être en proie à une population insensée. Ah, si notre ami Tom Jean Jack était là, mais il ne vient plus. Vois donc toutes ces têtes les unes sur les autres. Ceux qui sont debout n'ont pas l'air contents, quoique se tenir debout soit, selon Galien, un mouvement, que ce grand homme appelle le mouvement tonique. Nous abrégerons le spectacle. Comme il n'y a que chaos vaincu d'affiché, nous ne jouerons pas Ursus Rursus. C'est toujours ça de gagner. Quel lourd varie! Oh, turbulence aveugle des masses! Ils nous feront quelques dégâts. Ça ne peut pourtant pas continuer comme ça. Nous ne pourrions pas jouer. On ne saisirait pas un mot de la pièce. Je vais les haranguer. Gwynplaine, écarte un peu la triveline. Citoyen! Ici, Ursus se cria à lui-même d'une voix fébrile et pointue. À bas, le vieux! Et il reprit de sa voix à lui. Je crois que le peuple m'insulte. Cicéron a raison. Plebs fex urbis. N'importe, admonestons la mob. J'aurais beaucoup de peine à me faire entendre. Je parlerai pourtant. Homme, fais ton devoir. Gwynplaine, vois donc cette mégère qui grince là-bas. Ursus fit une pause où il plaça un grincement. Homo provoqué, en ajouta un second, et Govicom un troisième. Ursus poursuivit. « Les femmes sont pires que les hommes. Moment peu propice. C'est égal. Essayons le pouvoir d'un discours. Il est toujours l'heure d'être disert. Écoute ça, Gwynplaine. Exorde insinuant. Citoyennes et citoyens, c'est moi qui suis l'ours. J'ôte ma tête pour vous parler. Je réclame humblement le silence. » Ursus prêta à la foule ce cri « Grumpf !» et continua. « Je vénère mon auditoire. Grumpf est un épiphonème comme un autre. Salut, population grouillante. Que vous soyez tous de la canaille, je n'en fais nul doute. Cela n'ôte rien à mon estime. Estime réfléchie. J'ai le plus profond respect pour messieurs les sacripants qui m'honorent de leur pratique. » Il y a parmi vous des êtres difformes, je ne m'en offense point. Messieurs les boiteux et messieurs les bossus sont dans la nature. Le chameau est gibeux, le bison est enflé du dos, le blaireau a les jambes plus courtes à gauche qu'à droite. Le fait est déterminé par Aristote dans son traité du marché des animaux. Ceux d'entre vous qui ont deux chemises en ont une sur le torse et l'autre chez l'usurier. Je sais que cela se fait. Albuquerque mettait en gage sa moustache et Saint-Denis son auréole. Les Juifs prêtaient, même sur l'auréole. Grands exemples. Avoir des dettes, c'est avoir quelque chose. Je révère en vous des gueux. Ursus se coupa par cette interruption en basse profonde. « Triple baudet !» Et il répondit de son accent le plus poli. « D'accord, je suis un savant. Je m'en excuse comme je peux. Je méprise scientifiquement la science. L'ignorance est une réalité dont on se nourrit. La science est une réalité dont on jeûne. En général, on est forcé d'opter. Être un savant et maigrir, brouter et être un âne. Ô citoyen, brouter, la science ne vaut pas une bouchée de quelque chose de bon. J'aime mieux manger de la loyau que de savoir qu'il s'appelle le muscle psoas. Je n'ai moi qu'un mérite, c'est l'œil sec. Tel que vous me voyez, je n'ai jamais pleuré. Il faut dire que je n'ai jamais été content. Jamais content. Pas même de moi. Je me dédaigne. Mais je soumets ceci aux membres de l'opposition ici présents. Si Ursus n'est qu'un savant, Gwynplaine est un artiste. » Il renifla de nouveau. « Gwumph !» Et il reprit. « Encore Gwumph ! C'est une objection. Néanmoins, je passe outre. Et Gwynplaine, oh, messieurs, mesdames, a près de lui un autre artiste. C'est ce personnage distingué et velu qui nous accompagne, le seigneur Homo, ancien chien sauvage, aujourd'hui loup civilisé, et fidèle sujet de sa majesté. Homo est un mime d'un talent fondu et supérieur. Soyez attentifs et recueillis. Vous allez tout à l'heure voir jouer Homo ainsi que Gwynplaine, et il faut honorer l'art. Cela sied aux grandes nations. Êtes-vous des hommes des bois? J'y souscris. En ce cas, Silva et Sint consule dignae. Deux artistes valent bien un consul. Bon. Ils viennent de me jeter un trognon de chou. Mais je n'ai pas été touché. Cela ne m'empêchera pas de parler. Au contraire. Le danger esquivé est bavard. Garula pericula, dit Juvénal. Peuple, il y a parmi vous des ivrognes. Il y a aussi des ivrognesses. C'est très bien. Les hommes sont infects, les femmes sont hideuses. Vous avez toutes sortes d'excellentes raisons pour vous entasser ici sur ces bancs de cabaret. Désœuvrement, la paresse, l'intervalle entre deux vols, le porté, l'âle, le stout, le malt, le brandy, le gin, et l'attrait d'un sexe pour l'autre sexe. À merveille. Un esprit tourné au badinage aurait ici un beau chant. Mais je m'abstiens. Luxure, soit. Pourtant, il faut que l'orgie ait de la tenue. Vous êtes gai, mais bruyant. Vous imitez avec distinction les cris des bêtes. Mais que diriez-vous si, quand vous parlez d'amour avec une lady dans un bouge, je passais mon temps à aboyer après vous? Cela vous gênerait. Eh bien, cela nous gêne. Je vous autorise à vous taire. L'art est aussi respectable que la débauche. Je vous parle un langage honnête. » Il s'apostropha. « Que la fièvre t'étrangle avec tes sourcils en épis de seigle !» Et il répliqua. « Honorables messieurs, laissons les épis de seigle tranquilles. C'est une impiété de faire violence aux végétables pour leur trouver une ressemblance humaine ou animale. En outre, la fièvre n'étrangle pas. Fausse métaphore. De grâce, faites silence. Souffrez qu'on vous le dise. Vous manquez un peu de cette majesté qui caractérise le vrai gentilhomme anglais. » Je constate que parmi vous, ceux qui ont des souliers à travers lesquels passent leurs orteils en profitent pour poser leurs pieds sur les épaules des spectateurs qui sont devant eux, ce qui expose les dames à faire la remarque que les semelles se crèvent toujours au point où est la tête des os métatarsiens. Montrez un peu moins vos pieds et montrez un peu plus vos mains. J'aperçois d'ici des fripons qui plongent leurs griffes ingénieuses dans les goussets de leurs voisins imbéciles. « Cher pickpocket, de la pudeur. Boxez le prochain si vous voulez. Ne le dévalisez pas. Vous fâcherez moins les gens en leur pochant un œil qu'en leur chipant un sou. » endommager l'aîné, soit. Le bourgeois tient son argent plus qu'à sa beauté. Du reste, agréez mes sympathies. Je n'ai point le pédantisme de blâmer les filous. Le mal existe, chacun l'endure et chacun le fait. Nul n'est exempt de la vermine de ses péchés. Je ne parle que de celle-là. N'avons-nous pas tous nos démangeaisons? Dieu se gratte à l'endroit du diable. Moi-même, j'ai fait des fautes. Plaudite qui vesse. Ursus exécuta un long groan qu'il domina par ses paroles finales. Milords et messieurs, je vois que mon discours a eu le bonheur de vous déplaire. Je prends congé de vos huées pour un moment. Maintenant, je vais remettre ma tête et la représentation va commencer. Il quitta l'accent oratoire pour le ton intime. Referme la triveline. Respirons. J'ai été mielleux. J'ai bien parlé. Je les ai appelés milords et messieurs. Langage velouté. Mais inutile. Que dis-tu de toute cette crapule, Gwynplaine? Comme on se rend bien compte des maux que l'Angleterre a souffert depuis 40 ans par l'emportement de ces esprits aigres et malicieux. Les anciens Anglais étaient belliqueux. Ceux-ci sont mélancoliques et illuminés. Et ils se font gloire de mépriser les lois et de méconnaître l'autorité royale. J'ai fait tout ce que peut faire l'éloquence humaine. Je leur ai prodigué des métonymies gracieuses comme la joue en fleur d'un adolescent. Sont-ils adoucis? J'en doute. Qu'attendre d'un peuple qui mange si extraordinairement et qui se bourre de tabac, au point qu'en ce pays, les gens de lettres eux-mêmes composent souvent leurs ouvrages avec une pipe à la bouche. C'est égal. Jouons la pièce. On entendit glisser sur leurs tringles les anneaux de la triveline. Le tambourinage des préhaignes cessa. Ursus décrocha sa chiffonie, exécuta son prélude, et dit à demi-voix « Hein, Gwynplaine, comme c'est mystérieux !» Puis se bouscula avec le loup. Cependant, en même temps que la chiffonie, il avait ôté du clou une perruque très bourrue qu'il avait, et il l'avait jetée sur le plancher dans un coin à sa portée. La représentation de chaos vaincu eut lieu, presque comme l'ordinaire, moins les effets de lumière bleue et les féeries d'éclairage. Le loup jouait de bonne foi. Au moment voulu, Dea fit son apparition, et de sa voix tremblante et divine évoqua Gwynplaine. Elle étendit le bras, cherchant cette tête. Ursus se rua sur la perruque, l'ébouriffa, s'encoiffa, et avança doucement, en retenant son souffle, sa tête ainsi hérissée sous la main de Dea. Puis, appelant à lui tout son art et copiant la voix de Gwynplaine, il chanta, avec un ineffable amour, la réponse du monstre à l'appel de l'esprit. L'imitation fut si parfaite que cette fois encore, les deux préhaignes cherchèrent des yeux Gwynplaine, effrayés de l'entendre sans le voir. Govicum, émerveillé, trépigna, applaudit, battit des mains, produisit un vacarme olympien et rit à lui tout seul comme une troupe de dieux. Ce boy, disons-le, déploya un rare talent de spectateur. Phoebe et Vinos, automates dont Ursus poussait les ressorts, firent le tohu-bohu habituel d'instruments, cuivre et peau d'âne mêlés, qui marquait la fin de la représentation et accompagnait le départ du public. Ursus se releva en sueur. Il dit tout bas à Homo, tu comprends qu'il s'agissait de gagner du temps. Je crois que nous avons réussi. Je ne m'en suis point mal tiré, moi qui avais pourtant le droit d'être assez perdu. Gwynplaine peut encore revenir d'ici à demain. Il était inutile de tuer tout de suite Dea. Je t'explique la chose, à toi. Il ôta la perruque et s'essuya le front. Je suis un ventriloque de génie, murmura-t-il. Quel talent j'ai eu! J'ai égalé Brabant, Langastrimite du roi de France François Ier. Dea est convaincue que Gwynplaine est ici. Ursus, dit Dea. « Où est Gwynplaine ?» Ursus se retourna en sursaut. Dea était restée au fond du théâtre, debout sous la lanterne du plafond. Elle était pâle, d'une pâleur d'ombre. Elle reprit avec un ineffable sourire désespéré. « Je sais, il nous a quittés. Il est parti, je savais bien qu'il avait des ailes. » Élevant vers l'infini ses yeux blancs, elle ajouta « À quand, moi ?» Chapitre 3. Complications. Ursus demeura interdit. Il n'avait pas fait illusion. Était-ce la faute de sa ventriloquie? Non, certes. Il avait réussi à tromper Phoebe et Vinos, qui avaient des yeux, et non à tromper Dea, qui était aveugle. C'est que les prunelles seules de Phoebe et de Vinos étaient lucides, tandis que chez Dea, c'était le cœur qui voyait. Il ne put répondre un mot. Et il pensa à part lui, « Bos in lingua », l'homme interdit à un bœuf sur la langue. Dans les émotions complexes, l'humiliation est le premier sentiment qui se fasse jour. Ursus songea, « J'ai gaspillé mes onomatopées. » Et, comme tout rêveur acculé au pied du mur de l'expédient, il s'injuria. « Chut à plat ! J'ai épuisé en pure perte l'harmonie imitative. Qu'allons-nous devenir maintenant ?» Il regarda Dea. Elle se taisait, de plus en plus pâlissante, sans faire un mouvement. Son œil perdu restait fixé dans les profondeurs. Un incident vint à propos. Ursus aperçut dans la cour Maître Nicless, sa chandelle en main, qui lui faisait signe. Maître Nicless n'avait point assisté à la fin de l'espèce de comédie fantôme jouée par Ursus. Cela tenait à ce qu'on avait frappé à la porte de l'île. Maître Nicless était allé ouvrir. Deux fois on avait frappé, ce qui avait fait deux éclipses de Maître Nicless. Ursus, absorbé dans son monologue à 100 voix, ne s'en était point aperçu. Sur l'appel muet de Maître Nicless, Ursus descendit. Il s'approcha de l'hôtelier. Ursus mit un doigt sur sa bouche. Maître Nicless mit un doigt sur sa bouche. Tous deux se regardèrent ainsi. Chacun d'eux semblait dire à l'autre « Causons, mais taisons-nous ». Le tavernier, silencieusement, ouvrit la porte de la salle basse de l'inn. Maître Nicless entra, Ursus entra. Il n'y avait personne que deux. La devanture sur la rue, porte et volée, était close. Le tavernier poussa derrière lui la porte de la cour qui se ferma au nez de Govicom, curieux. Maître Nicless posa la chandelle sur une table. Le dialogue s'engagea, à demi-voix, comme un chuchotement. Maître Ursus. Maître Nicless. J'ai fini par comprendre. Bah. Vous avez voulu faire croire à la pauvre aveugle que tout était ici comme à l'ordinaire. Aucune loi ne défend d'être ventriloque. Vous avez du talent. Non. C'est prodigieux à quel point vous faites ce que vous voulez faire. Je vous dis que non. Maintenant, j'ai à vous parler. Est-ce de la politique? Je n'en sais rien. C'est que je n'écouterai pas. Voici. Pendant que vous faisiez la pièce et le public à vous tout seul, on a frappé à la porte de la taverne. On a frappé à la porte? Oui. Je n'aime pas ça. Moi non plus. Et puis j'ai ouvert. Qui est-ce qui frappait? Quelqu'un qui m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai écouté. Qu'est-ce que vous avez répondu? Rien. Je suis revenu vous voir jouer. Et? Et il en a frappé une seconde fois. Qui? Le même? Non, un autre. Quelqu'un encore qui vous a parlé? Quelqu'un qui ne m'a rien dit. Je le préfère. Moi pas. Expliquez-vous, Maître Nicless. devinez qui avait parlé la première fois. « Je n'ai pas le temps d'être Oedipe. » C'était le maître du circus. « D'à côté ?»« D'à côté. » »« Où il y a toute cette musique enragée ?»« Enragée. » »« Eh bien ?»« Eh bien, maître Ursus, il vous fait des offres. »«
Des offres ?»«
Des offres. » »«
Pourquoi ?»«
Parce que... » »« Vous avez sûrement un avantage, maître Nicless. » C'est que vous, tout à l'heure, vous avez compris mon énigme, et que moi, maintenant, je ne comprends pas la vôtre. Le maître du circus m'a chargé de vous dire qu'il avait vu ce matin passer le cortège de police, et que lui, le maître du circus, voulant vous prouver qu'il est votre ami, il vous offrait de vous acheter, moyennant 50 livres sterling payés comptant, votre berlingot, la Gwynbox, vos deux chevaux, vos trompettes avec les femmes qui y soufflent, votre pièce avec l'aveugle qui chante dedans, votre loup et vous avec. » Ursus eut un hautain sourire. « Maître de Lintadcaster, vous direz au maître du circus que Gwynplaine va revenir. » Le tavernier prit sur une chaise quelque chose qui était dans l'obscurité et se retourna vers Ursus, les deux bras levés, laissant pendre de l'une de ses mains un manteau et de l'autre une esclavine de cuir, un chapeau de feutre et un capingo. Et maître Nicless dit « L'homme qui a frappé la seconde fois et qui était un homme de police et qui est entré et sorti sans prononcer une parole a apporté ceci. » Ursus reconnut l'esclavine, le capingo, le chapeau et le manteau de Gwynplaine.